Vous écoutez, on lit pour vous.
Des camelots de l'itinéraire font du théâtre d'impro pour déstigmatiser l'itinérance. Un texte de Caroline Montpetit paru le 13 mai 2024 dans Le Devoir. Céline Marchand a des yeux clairs et le teint rose. Parfois, ses sourcils se froncent et une immense force se rassemble en elle. Sur la scène de la Maison de la culture Jeannine Suteau, elle raconte la première douche d'une nouvelle venue dans un refuge pour sans-abri de Montréal. Elle dit la peur de se départir de la crasse que l'on a traînée dans la rue comme son dernier trésor, de voir une vie entière disparaître dans le drain de la douche. Cet univers qu'elle dépeint dans la pièce « Vient-on dans rue », basée sur les improvisations d'un groupe de camelots de l'itinéraire, Céline Marchand l'a vécu de près. En 2009, brisée par la violence conjugale, elle a perdu son travail, son appartement, ses ressources, son milieu. Isolée, elle a vécu 3 ans d'un refuge à l'autre, de 2 semaines en 2 semaines, côtoyant les plus perdus, les plus démunis, des loques humaines, dit-elle, à en avoir froid dans le dos. 3 ans dans la désorganisation, la plus complète, à douter de soi, avec une araignée dans le plafond à force de vivre avec des gens qui ont des problèmes. 3 ans avant de trouver la force de s'en sortir. Depuis 2013, Céline Marchand vend le magazine L'Itinéraire à l'angle des rues Masson et Saint-Michel et habite dans le même appartement. Certains de ses clients sont venus la voir dans la pièce qui tenait l'affiche cette semaine. L'homme qui la détruisait n'est plus au pays. Gabrielle Lavoie a appelé la police lorsqu'une bataille l'a opposé à son colocataire qui voulait le jeter dehors. Ce soir-là, il s'est retrouvé à la mission Old Brewery. C'est le début d'un épisode d'itinérance qui a duré 2 ans. Cannabis, alcool, amphétamine. Des journées à se réveiller dans la rue sans savoir ce qu'il a fait la veille. Diagnostiqué schizophrène, il avait abandonné l'école en première secondaire. Aujourd'hui, à 43 ans, il reprend sa 3e secondaire. Il signe des chroniques scientifiques dans le magazine L'Itinéraire et rêve de devenir journaliste professionnel. C'est François-Étienne Paré, directeur artistique de la Ligue nationale d'improvisation et aussi porte-parole de L'Itinéraire, qui a eu l'idée de ce spectacle. Les 6 camelots ont participé sans relâche aux répétitions, semaine après semaine, afin d'être prêts pour le grand jour. Dans leurs impros, ils racontent le rêve de manger un repas préparé par leur mère, fantasment sur des passants qui se battraient pour leur offrir leur carte de crédit. Ils ont aussi raconté des amis morts d'overdose, des funérailles manquées. Si les faits sont fictifs, ils sont inspirés d'expériences personnelles. 1001 raisons. Violence conjugale. Divorce, décès, accident de voiture, immigration, éviction, problèmes de santé mentale, toxicomanie, incarcération. Il y a autant de raisons pour se retrouver dans la rue qu'il y a de personnes itinérantes. D'ailleurs, il y en a de plus en plus, selon Thomas Wayland, organisateur communautaire pour l'itinéraire, qui a accompagné les camelots dans leur projet théâtral. Il y a de nouveaux profils de personnes qui viennent dans notre organisme pour demander des services, dit-il. Il y en a qui ont perdu leur travail. Il y en a aussi qui ont déménagé à Montréal parce qu'il y a plus de ressources, qui sont arrivés d'autres régions du Québec parce qu'ils étaient vraiment mal pris. Il y a aussi l'immigration là-dedans aussi, tu sais. Personnellement, c'est quelque chose qui me choque profondément. Une personne immigre au Québec ou au Canada pour quelque chose de mieux, mais finalement, elle se retrouve en situation d'itinérance. Et il y en a pas mal. Sophie Caron, comédienne spécialisée en improvisation, mais aussi intervenante psychosociale, a travaillé avec l'équipe de l'itinéraire durant 2 ans. Plusieurs ont des histoires rocambolesques, dit-elle. Chacun d'entre eux a des zones vulnérables, bien sûr, mais aussi une incroyable force. Ils me racontaient des choses et parfois je riais. Et quand j'arrivais chez moi, je me disais « Mon Dieu, c'est donc bien cruel ce que la personne a vécu. Ils ont une façon de le raconter qui devient plus légère. Mais l'itinérance a laissé en eux des traces, le passage de tout ce qui te mène à l'expérience de la rue et tous les efforts et la force dont tu as besoin pour t'en sortir. Il y a ces blessures, mais ils ont une incroyable force de caractère qui fait d'eux des super-héros, dit-elle. Pour Gabrielle Lavoie, le spectacle est intéressant parce qu'il brise la stigmatisation. Ça humanise les personnes qui vivent dans des situations comme ça. Il y a des gens qui vont peut-être comprendre qu'ils se sont trompés. Que ce n'est pas toutes les personnes itinérantes qui sont les pires des dernières. Ils ont des problématiques. Ils ont juste besoin d'aide, dit-il. Céline Marchand elle-même dit avoir changé d'opinion sur la condition d'itinérant. Ça peut vraiment arriver à n'importe qui, dit-elle. Réfléchissez un peu, là. Quelqu'un qui perd sa femme, ses enfants, sa maison brûle. Il devient fou. Alors il s'assoit au coin de la rue et il boit sa bière. Dans une scène du spectacle, un politicien s'approche pour faire campagne, mais suit rapidement les citoyens qui ont déjà le pouvoir et l'argent. Gabrielle Lavoie pense, quant à lui, que la seule approche de la construction de logements à prix modique ne peut pas remédier au problème de l'itinérance, notamment parce que ces constructions prennent du temps. On entend les politiciens dire « il faut construire plus de logements, il faut se dépêcher ». Mais en fait, il y a des solutions bien plus simples. Ils ne veulent pas instaurer des lois qui protégeraient les locataires et coûteraient moins cher que de se dépêcher à construire. Le problème est immédiat. Il y a des gens qui, en ce moment, ont tout perdu. Ils sont à la rue. C'était des camelots de l'itinéraire font du théâtre d'impro pour déstigmatiser l'itinérance. Un texte de Caroline Montpetit paru le 13 mai 2024 dans Le Devoir.
Démanteler ou tolérer les campements de sans-abri? La question divise les villes. Un texte d'Angie Landry, paru le 21 avril 2024 sur radiocanada.ca. La multiplication des campements de sans-abri partout au pays remet à l'ordre du jour la question de leur démantèlement, une pratique controversée qui divise les villes en pleine crise du logement. Si de nombreux campements d'infortune érigés par des personnes en situation d'itinérance ont fait partie du paysage hivernal, leur nombre tend à augmenter avec l'arrivée du beau temps. Partout au pays, les municipalités sont ainsi témoins de ce que la défenseure fédérale du logement, Marie-Josée Houle, qualifie de crise nationale des droits de la personne. Le phénomène est d'ailleurs considéré comme l'une des multiples conséquences de la crise du logement. La question revient ainsi à l'ordre du jour. Les municipalités doivent-elles tolérer les campements? La solution pérenne à ce problème, et il n'y en a pas 56, c'est le logement. C'est un endroit pour stabiliser la personne, avance Robert Baudry, responsable de l'urbanisme et de l'itinérance au comité exécutif de la Ville de Montréal. En entrevue à l'émission « Les faits d'abord ». La Ville a pourtant démantelé près de 500 campements de personnes en situation d'itinérance depuis un an, selon ce qu'a récemment appris Radio-Canada. Questionné sur l'approche officielle de l'administration Plante en la matière, M. Baudry défend ses démarches, qui sont, selon lui, faites dans l'intérêt des conditions de vie et de la sécurité des personnes vivant dans ces installations provisoires. On ne veut pas normaliser une situation qu'on considère inacceptable et on ne veut pas mettre les gens dans des situations qui sont potentiellement dangereuses. Une citation de Robert Baudry, responsable de l'urbanisme et de l'itinérance au comité exécutif de la Ville de Montréal. Celui qui siège également au Comité sur l'itinérance de l'Union des municipalités du Québec, UMQ, rappelle qu'il n'y a pas que les campements qui génèrent des problèmes. Incendie, violence ou manque de soins. Puisque les personnes sans domicile fixe se voient aussi forcées de dormir dans les entrées de commerce et les bouches de métro ou sur des bancs de parc. On comprend aussi que ce n'est pas nécessairement l'idéal d'habiter dans une tente au coin de Notre-Dame et de Frontenac avec tous les enjeux de salubrité, de sécurité, indique Julien Montreuil, directeur général de l'organisme montréalais L'Anonyme, dont l'unité mobile d'intervention psychosociale circule dans les rues de Montréal le soir et la nuit. Il faut se questionner quand on démantèle des campements, soutient M. Montreuil. Ce qui arrive, c'est qu'on a ensuite de la misère à rejoindre ces personnes. On fait en sorte de les mettre dehors. Puis, ils sont encore plus vulnérables, puis plus à risque. Une citation de Julien Montreuil, directeur général de l'organisme L'Anonyme. Démanteler une fausse solution? Pourtant, sur l'autre rive du Saint-Laurent, la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, disait plus tôt en janvier prôner une approche proactive. La ville ne démantèle pas les campements, avait-elle soutenu, arguant, entre autres, que l'actuel manque de ressources communautaires et de refuges ne permettait pas aux personnes en situation d'itinérance d'être à l'abri sans ces installations temporaires. Dans l'ouest du pays, le démantèlement des campements dans des grandes villes comme Vancouver et Calgary ont créé un exode des populations itinérantes vers de plus petites municipalités, dont celle de Salmon Arm, en Colombie-Britannique. La conseillère municipale de cette petite ville de la vallée de l'Okanagan, Louise Wallace Richmond, est persuadée que le démantèlement des campements n'est pas une solution adéquate. La communauté de personnes en situation d'itinérance, c'est une communauté, c'est un écosystème, soutient Mme Wallace Richmond. Elle explique que malgré les conflits ou les problèmes de violence, les gens se parlent et tentent de s'entraider, s'informant sur les endroits où se déplacer si leur port d'attache est démoli. La petite ville de Salmon Arm compte désormais un refuge offrant 25 lits pour les personnes sans abri. L'itinérance, une course à obstacles. L'accès au logement demeure le nerf de la guerre en matière d'itinérance, estime Eric Latimer, chercheur à l'Institut universitaire en santé mentale Douglas et professeur titulaire au département de psychiatrie de l'Université McGill. Il est d'ailleurs loin d'être le premier expert à donner la hausse du coût des loyers comme facteur principal de l'augmentation des cas d'itinérance. Au Québec, un rapport démontre à ce titre que les expulsions d'un logement, 23 % pour loyer impayé, plainte ou rénoviction, viennent au premier rang des causes de l'itinérance devant les troubles liés à la consommation de substances psychoactives, 21 % La hausse n'est pas compensée par une augmentation correspondante des revenus au bas de l'échelle. Ce ne sont pas que des gens qui ont des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie qu'on voit dans ces campements. Une personne peut ne pas avoir de problème de santé mentale ou de dépendance et simplement avoir des revenus relativement faibles ou une situation qui l'oblige à quitter son appartement, ajoute M. Latimer, qui compare le phénomène de l'itinérance à une course à obstacles. On peut sauter par-dessus les obstacles sans difficulté, mais à partir du moment où on augmente la hauteur des obstacles, il y aura de plus en plus de coureurs qui ne réussiront pas à les franchir. » Montréal interpelle François Legault. Plusieurs s'entendent pour dire que le phénomène des campements n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan de l'itinérance. Et nombreux sont ceux qui brandissent le drapeau rouge pour alerter les gouvernements provinciaux de qui relève la lutte contre l'itinérance au pays. Quand on est en situation de crise, comme on l'est à Montréal et dans les autres grandes villes du Québec, il faut que le gouvernement s'engage là-dedans, indique pour sa part Robert Baudry de la Ville de Montréal. C'est bien de voir M. Carman s'engager et en parler. Il connaît très bien l'enjeu de l'itinérance. Mais il faudrait que le ministre Dubé aussi soit présent. Le ministre de l'Emploi aussi. Le premier ministre même. Une citation de Robert Baudry, responsable de l'urbanisme et de l'itinérance au comité exécutif de la Ville de Montréal. Par écrit, le cabinet du ministre Carman souligne que pour 2023-2024, ce sont 75 millions de dollars qui ont été déployés pour soutenir la lutte à l'itinérance à Montréal. Des investissements, dit-on, qui ont permis d'offrir 200 nouvelles places d'urgence. Ce à quoi organismes et experts répondent qu'il faut promettre un plan pour contrer la crise du logement. Dans son plus récent budget, Québec a prévu 56,3 millions de dollars pour maintenir le parc de logements sociaux, mais pas d'argent neuf pour la construction de ce type d'habitation. Éric Latimer rappelle l'existence de l'approche « logement d'abord ». Elle consiste à accompagner une personne en situation d'itinérance pour accéder à un logement, généralement sur le marché locatif privé, grâce à un supplément au loyer offert par le gouvernement provincial. Cette approche jugée idéale pour certains nécessite toutefois une pléthore d'intervenants et de ressources. Et les réseaux communautaires ont déjà des défis incommensurables, rappelle Robert Baudry. Actuellement, on finance le milieu socio-communautaire au projet, à l'initiative. Mais on devrait le financer comme notre réseau de santé, estime-t-il. Pour Julien Montreuil, de l'Anonyme, il s'agit d'un choix de société que de mettre en action des mesures pour les plus vulnérables. C'est notre responsabilité de répondre à un besoin de base, c'est-à-dire se loger. C'était démanteler ou tolérer les campements de sans-abri? La question divise les villes. Un texte d'Angie Landry, paru le 21 avril 2024 sur radiocanada.ca.
Il faudrait 3,5 milliards de plus par an pour réduire l'itinérance de moitié au pays. Un texte de Mylène Crête, paru le 22 mai 2024 dans la presse. Des sommes colossales seraient nécessaires pour atteindre l'objectif de la stratégie nationale sur le logement de réduire l'itinérance chronique de 50 % d'ici 2027-2028. C'est ce que constate le directeur parlementaire du budget, Yves Giroux, dans un rapport dévoilé mercredi le 22 mai 2024. Celui-ci a découvert avec étonnement que la part fédérale est très peu élevée par rapport à celle versée par les gouvernements provinciaux et les municipalités. Ce qu'on voit, c'est que les dépenses fédérales sont une faible partie des dépenses totales, combinées fédérales-provinciales pour lutter contre l'itinérance, mais que l'objectif de la réduire de 50 % va être très difficile à atteindre sans une augmentation massive des dépenses publiques, explique-t-il en entrevue. M. Giroux estime que le gouvernement devrait injecter 3,5 milliards annuellement pour y parvenir, soit une somme 7 fois plus importante que le financement actuel du programme « Vers un chez-soi ». le programme finance des mesures d'aide au logement aux personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir. Actuellement, la majeure partie des 561 millions de dollars alloués annuellement à la stratégie nationale sur le logement y sont affectés. Ce financement devrait être permanent et indexé sur l'inflation, écrit-il dans son rapport. Il note que ce programme réussit à réduire le dénombrement ponctuel de sans-abri d'environ 6 000 à l'échelle du pays, soit 15 %. Or, leur nombre a augmenté de 20 % entre mars 2020 et décembre 2022 par rapport à 2018, selon les données d'Infrastructure Canada. Ce qu'on semble tous collectivement perdre de vue, c'est que ce sont les provinces et dans plusieurs cas les municipalités aussi qui ont la part du lion en matière de dépenses pour la lutte contre l'itinérance, rappelle Yves Giroux. Il s'appuie sur une évaluation du ministère de l'Emploi et du Développement social publiée en 2018, selon laquelle le financement fédéral avait seulement couvert 7,1% des dépenses en matière de lutte contre l'itinérance. Les provinces et les municipalités ont dépensé 13,2 $ par dollar versé par le fédéral. L'analyse a été faite pour l'année financière 2015-2016. Le phénomène de l'itinérance ne prend pas juste racine dans le manque d'argent en intervention, mais bien sûr les causes structurelles qui génèrent de l'itinérance, rappelle le directeur général du réseau Solidarité Itinérance du Québec, RSIQ, Boromir Vallée-Doré. La hausse du coût du logement, la pauvreté, les évictions n'en sont que quelques exemples. Le RSIQ représente plus de 200 organismes un peu partout au Québec. Et la somme annuelle de 3,5 milliards avancée par le directeur parlementaire du budget est insuffisante pour lutter contre l'itinérance, selon lui, puisqu'il y a déjà une sous-représentation du phénomène. Le dénombrement sous-évalue le nombre de sans-abri et la définition utilisée par le gouvernement fédéral est plus restreinte que celle du Québec qui inclut, par exemple, les femmes victimes de violences. Gouvernement obèse. Le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, a accusé le gouvernement d'avoir alimenté la hausse des prix en injectant constamment de l'argent dans l'économie. Quand va-t-il reconnaître qu'un grand gouvernement obèse à Ottawa ne va jamais mettre fin à l'itinérance, a-t-il demandé lors de la période des questions. C'est des investissements que ça prend. Or, lui ne propose que des coupes et de l'austérité pendant que les Canadiens souffrent, a rétorqué le premier ministre Justin Trudeau. Le Bloc québécois et le nouveau Parti démocratique, NPD, ont appelé le gouvernement à délier les cordons de la bourse. On trouve ça très inquiétant et on demande au gouvernement fédéral évidemment d'augmenter les transferts aux provinces et au Québec pour qu'on puisse faire en sorte d'améliorer le sort de ces personnes-là, a réagi le leader parlementaire bloquiste Alain Thérien. Les libéraux ont encore brisé leur promesse de réduire l'itinérance, a fait valoir le chef néo-démocrate Jacques Mitzing. Le gouvernement libéral et Justin Trudeau doivent agir pour construire du logement abordable et du logement social pour faire face à ce grand problème partout au pays. Le dernier budget fédéral prévoit 1,04 milliard de dollars supplémentaires sur 4 ans pour le programme Vers un chez-soi, dont 250 millions sur 2 ans pour régler le problème des campements de sans-abri à condition que les provinces et les territoires versent une somme équivalente. Ces montants pourraient être bonifiés au besoin. Je ne vais pas dire que nous n'allons pas faire plus si nous avons besoin de faire plus, a affirmé le ministre du Logement, Sean Fraser. Il a rappelé du même souffle que le gouvernement tente de s'attaquer aux problèmes sur plusieurs fronts, notamment en construisant des logements abordables. M. Fraser a reconnu que le moratoire de 3 ans que le gouvernement du Québec veut imposer sur les évictions peut aider à lutter contre l'itinérance, mais n'a pas voulu commenter davantage. C'était « Il faudrait 3,5 milliards de plus par an pour réduire l'itinérance de moitié au pays », un texte de Mylène Crête, paru le 22 mai 2024 dans la presse.
Itinérance et cohabitation sociale, un forum pour trouver des solutions. Un texte de Marie-Ève B. Allary, paru le 17 avril 2024 dans l'Hebdo Journal. La ville de Trois-Rivières réunira plusieurs partenaires concernés par la crise de l'itinérance le 10 mai à l'occasion d'un forum sur la cohabitation sociale. Le CIUS de la Mauricie et du Centre du Québec, ainsi que les organismes d'entraide aux personnes vulnérables, seront présents pour l'occasion. Les députés de la région ont également été invités au forum qui vise à identifier des pistes de solutions pour favoriser une meilleure cohabitation dans les milieux plus problématiques de la ville. À l'issue du forum sur la cohabitation sociale, la ville prévoit se doter d'un plan d'action qui répondra aux besoins actuels de la population, en phase avec son champ de compétences, c'est-à-dire la sécurité publique, la salubrité des endroits publics et la cohabitation sociale. On vit une crise aiguë de l'itinérance. Il y a des gens qui ressentent un malaise de voir des personnes dans la rue quand on devrait tous pouvoir arriver à se loger, souligne le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche. L'objectif de ce forum est de dresser, au final, un plan d'action pour se donner le temps de mettre de l'avant des initiatives et des pistes de solutions pour améliorer la situation. Les impacts de l'itinérance sur le milieu de vie seront aussi considérés. D'ailleurs, afin d'obtenir l'avis du public sur la question, un sondage a été envoyé en début de semaine spécifiquement aux personnes vivant ou travaillant dans les secteurs où la présence d'itinérance est la plus marquée. Le centre-ville, le quartier Sainte-Marguerite et le secteur bas du Cap ont été ciblés par l'envoi postal. Les résultats seront présentés dans le cadre du forum afin d'enrichir les discussions des organismes partenaires. C'était « Itinérance et cohabitation sociale, un forum pour trouver des solutions », un texte de Marie-Ève B. Allary, paru le 17 avril 2024 dans l'Hebdo Journal.